Vous êtes bien sur France Culture. C'est l'été, tout de suite, l'heure du documentaire Irène Omelianenko.
Ça y est, tu enregistres là ?
Bonjour. Cette heure du documentaire nous conduit aujourd'hui sur des lieux où, en 2010, Alain de Valpo s'est rendu 20 ans après le scrutin qui avait vu la victoire du parti d'Aung San Suu Kyi, résultat non respecté par la junte en place. Il s'est rendu à la frontière birmano-thaï. Là, ex-prisonnier politique, journaliste, étudiant, médecin, enseignant, pêcheur, au total près de 3 millions de personnes de nationalité birmane vivent aux marges de la légalité. Depuis 1984, des camps pour accueillir ces réfugiés avaient été ouverts en Thaïlande. Prévus pour une courte durée, ils sont devenus des villes de dizaines de milliers d'habitants. En 2010, environ 150 000 hommes, femmes et enfants y vivaient. Ces camps officiels étaient des arbres qui cachaient la forêt de tous ceux qui vivaient clandestinement sur le sol thaïlandais et survivaient aux marges de la légalité. Diffusé une première fois le 5 novembre 2010, Little Burma, le pays clandestin, par Alain de Valpo et Christine Diger.
Muzis, qu'est-ce qui est en train de se passer?
Now we waiting for to enter the refugee camp, but there is a problem. Chief of the authority.
Nous sommes à l'entrée d'un camp de réfugiés et nous attendons la possibilité d'y rentrer, mais pour l'instant, l'autorité militaire thaïlandaise nous refuse cette entrée parce que lorsque l'on est un étranger, il faut fournir une documentation que l'on n'a pas. En ce moment, le superviseur du camp qui nous refuse d'entrer est en réunion, donc nous attendons la fin de la réunion. Et une fois cette réunion terminée, nous espérons qu'il aura changé d'état d'esprit et qu'il nous accordera la permission. On a quand même fait une longue route jusqu'ici. Ça serait dommage de rester aux portes du camp.
Yes, we take the long trips today.
Nous avons fait une longue route. Nous avons même eu un petit accident. Nous sommes venus en moto et ma femme est tombée dans un virage, mais heureusement, rien de grave. Nous avons aussi préparé à l'intérieur du camp toute une série de rencontres pour recueillir des témoignages de réfugiés qui vivent à l'intérieur des camps. Mais pour l'instant, on ne peut rien faire d'autre que d'espérer que le chef militaire thaïlandais change d'avis et nous autorise à rentrer.
Little Burma, le pays clandestin. Un documentaire d'Alain de Valpo et Christine Diger.
Yes, now we got the permission.
Bonne nouvelle, le superviseur donne un avis favorable à notre requête. Nous allons pouvoir rentrer, mais il est déjà midi et il nous faudra être ressorti avant 15 heures. Donc nous avons 3 heures pour visiter ce camp.
Raphaël Gatillon, je suis psychologue chez AMI et je supervise le service de santé mentale d'AMI dans 3 camps, Maïla, Noupo et Oumpiam. En fait, on a l'image d'un camp de réfugiés comme dans d'autres pays qui sont en fait plus des pays en guerre. L'accès aux soins et à l'éducation est bien plus limité dans d'autres camps de réfugiés. Par contre, on reste quand même dans un camp, quoi qu'il en soit, avec des fils barbelés autour du camp. Ça reste un endroit où on ne peut pas sortir et où on n'a pas de droit autre que d'être là et d'attendre et de ne pas avoir d'activité. Donc avec toutes ces années, il y a des écoles qui se sont créées, il y a une justice qui est propre au camp, il y a quelques possibilités de travail, même si elles sont très limitées. Donc progressivement, il y a une vie qui s'est créée, mais une vie biaisée, contrôlée, où il n'y a absolument aucune liberté.
So he thinks in Islam, I have a better English.
Le soleil commence à taper, nous sommes au milieu de l'après-midi, nous avons trouvé refuge dans la maison d'une personne qui a été membre du comité central du parti des Aung San Suu Kyi. Madame, vous êtes en famille, vous êtes combien de personnes ensemble ? Donc c'est une famille de 13 personnes, 3 fils et 3 et 6 petits-fils. Madame, pour ses activités politiques, elle avait beaucoup de difficultés économiques, beaucoup de difficultés sociales. Elle risquait même de retourner en prison alors qu'elle avait déjà fait beaucoup d'années de prison. Donc elle a décidé de s'enfuir. Il a fallu venir de manière tout à fait secrète. Elle n'a rien emmené avec elle. On a le droit à une brève visite de cette maison. Nous rentrons dans une sorte de couloir. Le plancher est fait de petits panneaux de bambou. Tout au bout, c'est la cuisine, kitchen. Une douche et des toilettes. Une buanderie sur la gauche. Vous avez de l'eau courante. Comment vous faites pour l'eau ? Cette maison a de l'eau qui provient d'une citerne. Ce sont les deux femmes de la maison qui nous expliquent cela. Il y a combien de chambres ?
4
chambres. La famille n'a pas assez d'argent pour acheter des bambous pour bâtir les cloisons. Donc ce sont des toiles de plastique qui séparent les pièces. Donc là, nous sommes face à une pièce qui fait 2 mètres sur 3. Combien de personnes vivent dans cette pièce ? C'est une couche pour 2 personnes. Ah, là, ça, c'est la chambre des enfants. How many children?
6.
6 enfants qui se répartissent dans une pièce pas beaucoup plus grande, 3 mètres sur 4 peut-être. En tout cas, les sourires sont au rendez-vous malgré la vétusté de l'habitat. Dans un coin, il y a une batterie qui permet éventuellement de produire un peu d'électricité.
Donc
la batterie est utilisée simplement la nuit pour permettre de lire. Et malgré l'espace exigu, il y a quand même une bibliothèque. Pourquoi cette bibliothèque et à qui doit servir cette bibliothèque, madame ? C'est une bibliothèque qui comprend des ouvrages politiques. Il y a beaucoup de posters et beaucoup d'images de Aung San Suu Kyi. Est-ce qu'on peut prendre une photo de vous devant la bibliothèque ?
If you wish, you can take it.
Il y a 2 ans, il y a une évaluation qui a été faite où les résultats ont donné que quasiment 50% de la population souffrait de troubles dépressifs, anxieux, des troubles psychosomatiques et des problèmes d'insomnie en fait principalement. Énormément de patients viennent pour des problèmes d'alcool et des déviances comme des violences très importantes, violences domestiques, conjugales et les conduites à risque, sniffer de l'alcool ou boire de l'alcool, les tentatives de suicide. Cela s'explique par différents traumatismes, le traumatisme de l'exil, de devoir se reconstruire dans un camp sans savoir pour combien de temps va y rester, et le désir d'être relocalisé en fait dans un pays tiers. On appelle ça le resettlement, donc la relocalisation, mais qui ne se fait pas toujours.
Nous voici au camp de transit géré par le Bureau des Migrations Internationales. C'est cet organisme qui est chargé du programme de réinstallation de personnes vivant dans les camps de réfugiés dans des pays tiers comme les États-Unis ou l'Australie. Et le passage obligatoire des réfugiés avant de monter dans l'avion est ce camp de transit où nous sommes ce matin. C'est Yuri qui nous sert de guide. Yuri, quelle est votre histoire? Vous êtes birman, vous êtes réfugié?
Oh no, I'm not a refugee. I am Burmese and I come with a passport and the official visa and working with IOM here.
Je suis birman mais je ne suis pas un réfugié. Je suis venu avec mon passeport, j'ai un visa officiel et je travaille avec l'IOM.
I'm happy to working with the refugees. This morning we have 40 people. We're leaving to America.
Ce matin, il y a 40 personnes qui quittent la Thaïlande pour les États-Unis. Parmi tous les candidats au départ ce matin, il y a un monsieur qui est avec deux jeunes enfants. Comment vous vous appelez?
Farnetou.
Farnetou. Et les deux enfants qui vous accompagnent, quel âge ont-ils? Le plus vieux a 3 ans et le plus jeune a 9 mois. Vous, cela fait combien de temps que vous vivez dans les camps? Cela fait très longtemps que monsieur vit dans les camps. Depuis 1997, il est en Thaïlande et depuis 2007, il était dans le camp Dom Piem. Cet homme est très heureux de partir, mais il est inquiet sur les conditions du voyage. Et il n'a notamment jamais effectué un si long voyage. Donc, par exemple, dans l'avion, il se demande comment aller aux toilettes et qu'est-ce qu'on va leur donner à manger. Je suis en train de rêver. Je ne me suis pas encore réveillé. Quand je vais me réveiller, nous dit cet homme, je vais découvrir de nouveaux édifices, de nouvelles personnes, un nouveau langage et une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, monsieur, vous la commencez à quel âge ? Cette nouvelle vie commence à 30 ans. C'est votre femme qui est derrière vous? Is it your wife behind you?
Ah oui, no matter.
Bonjour. Vous êtes heureuse de partir? Toute la famille est très heureuse de partir et elle est là avec le bébé dans ses bras en attendant que le bus s'en aille.
The bus is coming. So they have to go for medical checkup now.
Pierre King, vous travaillez pour le compte de l'Organisation internationale pour l'immigration. Vous êtes en charge de ces réfugiés qui partent s'installer dans un pays tiers.
Nous sommes ici à Mesot depuis 2005. Et nous avons réinstallé dans les pays tiers à peu près 58 000 réfugiés birmans. Alors la grande majeure partie de ces réfugiés partent en réinstallation sur les États-Unis. Les États-Unis ont un quota à peu près de 15 000 visas d'entrée. L'Australie prend à peu près 2 000 personnes par année. Les pays scandinaves, à peu près 200 par année dans cette région.
Ce programme soulève de critiques.
dit que les forces vives dans les camps, justement les jeunes les mieux formés, sont souvent ceux qui sont choisis. Et donc finalement les voir partir et servir de plongeur à New York, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce qu'ils ne seraient pas plus utiles dans les camps?
Non, par exemple sur les États-Unis, ce n'est pas un critère. Donc on a des gens de toute éducation qui partent. Des gens qui ne parlent pas du tout l'anglais ou qui ont très peu d'éducation, que ce soit aussi au niveau physique ou de santé. Certains pays ne prennent pas en considération les critères de polio ou d'handicap mental ou physique. Il est clair que la majeure partie des gens qui partent en réinstallation, c'est surtout avec l'idée de donner une meilleure éducation à leurs enfants.
Tarnetto est très dynamique. Et voilà qui arrive avec le gros sac. Il semble se diriger vers cette nouvelle vie, le cœur léger. Beaucoup de sourires sur les visages.
They are happy, they are exciting because they will have a new life again.
Ils sont heureux, ils sont excités car c'est une nouvelle vie vers laquelle ils se dirigent.
Tarnetto et Guida.
La politique de fer de la junte birmane ne laisse d'autre choix que l'exil et les Birmans ont bien des motifs de fuir le pays qu'ils aiment. Depuis 1984, des refuges sont installés en Thaïlande. Prévus pour une courte durée, ce sont devenus des villes de dizaines de milliers d'habitants. Environ 150 000 hommes, femmes et enfants y vivent. Ces camps officiels sont des arbres qui cachent la forêt de tous ceux, beaucoup plus nombreux, qui vivent aux marges de la légalité sur le sol thaïlandais. La ville frontalière de Mesot, surnommée la Petite Birmanie, est au cœur d'un pays clandestin. À Mesot, nous partons à la rencontre de Black Town, journaliste de la revue Inside News, de Eken Young, réfugié sans statut, puis de Darly, de sa mère, ouvrière, de Chang Wan, qui a dédié sa vie à l'enseignement, de Mong Mong Tin, peintre. Mais tout d'abord, voici Hong Kyo, un ex-prisonnier politique.
I want to stay on 2 August 1991, I was arrested by the military intelligence officers.
C'était le 2 août 1991. C'est des officiers des services de renseignement militaire qui m'ont arrêté ce jour-là.
They took me off the bus.
Les officiers sont montés dans le bus, ils m'ont fait sortir du bus, ils m'ont frappé, ils m'ont insulté, ils m'ont menotté.
I was blindfolded.
Pendant 24 heures, j'ai eu un bandeau sur les yeux, je n'ai vu personne, je ne savais pas où j'étais, mais on m'a posé beaucoup de questions pendant tout ce temps, on m'a évidemment frappé. Et la nourriture qu'on m'a donnée, c'était de la nourriture mélangée avec de la terre, et je n'ai pas pu la manger parce que c'était immangeable, cette nourriture avec de la terre. Pendant l'enquête, je suis tombé malade, j'ai eu la malaria, j'étais très faible. On ne m'a donné aucun médicament, on ne m'a pas soigné. Un jour, on m'a présenté devant un juge militaire. Il n'y avait pas d'avocat, il n'y avait personne, il n'y avait pas de public. En une heure, je me suis retrouvé condamné à 12 années de prison. Nous sommes à l'association d'aide aux prisonniers politiques. Nous sommes dans le centre-ville de Mesot. C'est une maison semblable à ses voisines. Pour y venir, la première fois, il vaut mieux être introduit car rien n'indique qu'ici vivent des ex-prisonniers politiques comme Hong Kyo. Le mot d'ordre ici, c'est la discrétion. Pour témoigner de leur calvaire, ces ex-prisonniers politiques ont eu l'idée de construire un petit musée.
C'est le musée des horreurs du régime birman que nous allons visiter avec Ankyo. Et pour entrer dans le musée, il y a une petite porte, comme une porte de cachot, qui est à mi-hauteur. Alors voilà, nous entrons. Il faut plier les chines pour franchir le seuil. Et voilà. Et Ankyo referme derrière nous.
Similar with the insane prison door.
Cette porte est similaire aux portes de la prison d'Insane, explique Ankyo. Nous sommes dans une pièce qui fait 60 mètres carrés. Il y a deux choses qui sautent aux yeux. Il y a la maquette de cette fameuse prison d'Insane, qui se trouve dans le nord de la ville de Rangoon, m'expliquait Ankyo. Il me disait aussi qu'il y a 10 000 personnes qui y sont détenues, dont 500 prisonniers politiques. Il y a une seconde chose qui intrigue tout de suite le visiteur, c'est la cellule qui a été reconstituée par ces ex-prisonniers politiques.
For 14 years, I have to stay in like that.
J'ai été enfermé dans une cellule comme celle-là pendant 14 ans. Dans cette cellule, vous avez juste une petite lucarne qui laisse entrer la lumière du jour. Pour dormir, il y a une natte en bambou tressé. On a le droit à une seule couverture et puis à notre habit de prisonnier. Et puis nous avons droit aussi à une bassine et un peu de savon pour nous laver. Et à l'extérieur de la cellule, Ankyo nous montre une grosse cruche. Et dans cette cruche, il y a de l'eau et c'est l'eau qui est disponible pour les prisonniers. La cellule fait 2 mètres sur 3, 6 mètres carrés. Combien d'heures par jour vous passiez dans cette cellule ? Il y a eu deux périodes. Il y a eu la période de 1991 à 1999 où je passais 23 heures et 45 minutes dans ma cellule. En 1999, la Croix-Rouge internationale a été autorisée à visiter des prisons en Birmanie. Et à partir de cette date-là, nos conditions se sont un peu améliorées. Nous avions le droit de sortir un peu plus longtemps de notre cellule, de rester une heure ou deux à l'extérieur pour pouvoir faire de l'exercice. Dans le bureau de l'association AAPP et je suis avec Bochi qui dirige cette association. Bochi, combien y a-t-il aujourd'hui de prisonniers politiques en Birmanie?
Il y a 2195 prisonniers politiques aujourd'hui en Birmanie. La situation empire de jour en jour. Le régime arrête beaucoup d'activistes. En prison, les détenus tombent malades. L'année dernière, au moins 3 d'entre eux sont décédés en détention. Beaucoup de prisonniers sont torturés. La torture est très fréquente. Nous affirmons que la torture en Birmanie est une politique d'État. Nous souhaitons que la communauté européenne fasse pression sur les autorités birmanes pour interdire la torture et que ces prisonniers soient libérés. Pour nous, la libération des détenus politiques n'est que la première étape d'un processus vers un retour de la démocratie en Birmanie. En Thaïlande, ces ex-prisonniers vivent en situation illégale. Et s'ils sont arrêtés par la police, ils risquent d'être renvoyés en Birmanie, où ils seront automatiquement arrêtés par le régime birman. Ils sont environ une centaine, ils ne peuvent pas travailler, ne peuvent pas gagner de quoi vivre. Les Nations Unies ne leur accordent pas le statut de réfugiés. C'est la même chose pour les États-Unis et l'Europe. La situation de ces personnes est donc très difficile.
Merci beaucoup. Bonsoir Paris. On parlait français. La révolution Burma. Je te sens bison. The way it is happening. Peoples of Burma are marching at a point of guns. Someday soon, the world will get to know all.
the battle's not over, and the war goes on and on and on.
Quand on sort en Kyo après tant d'années de prison, on n'est pas détruit physiquement, moralement. Ils ne peuvent pas détruire mes convictions, ils peuvent détruire mon corps, et après 14 ans dans une prison, on en sort beaucoup plus faible physiquement, mais mentalement, je reste aussi fort. Ils ne peuvent pas détruire ce que je pense. La situation est devenue très tendue à Rangoon pour les activistes politiques. Je risquais d'être détenu et de retourner en prison. Certains de nos membres de ce groupe, des étudiants du mouvement de 1988, ont été arrêtés et condamnés à 65 années de prison. Donc j'ai pris la décision de partir.
6 August 2007, I write a message.
Et le 6 août 2007, je suis arrivé à Mesot, en Thaïlande.
Burma is well known for its poor human rights record, but its record of child soldiers is among the worst in the world. For many years now, Burma has been under scrutiny from human rights and opposition groups for its recruitment of child soldiers in Thailand. But in 2010, there seems to have been little change as more and more children are forcibly recruited into the army.
C'est bon, le rendez-vous nous attend. Donc Blacktown, nous y allons.
It should take only 5 minutes.
Ce n'est pas très loin, 5 minutes du bureau d'Inside News. On y va en marchant, ou en voiture, ou en moto?
No. We are going by a truck. Because we are here not legally, so we have to be like
même si
invisible.
Le lieu de rendez-vous est très proche des bureaux, nous y allons en voiture, car Blacktown et tous les journalistes d'Inside News vivent de manière illégale à Mesot, et il faut qu'ils soient invisibles. Donc la meilleure manière d'être invisible, c'est de se déplacer dans un véhicule avec les vitres teintées en plus.
We used to travel with motorbike. You know, it's easier. Just go. Oui.
Avant, l'équipe se déplaçait plutôt en moto. C'était beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. Mais comme les checkpoints se multiplient et qu'à chaque fois il faut payer des amendes, Blacktown se déplace maintenant en voiture.
You're going around with the motorbike, and so you can see there one.
Là justement, on vient de se faire dépasser par un policier en moto.
Put on the belt.
Donc il vaut mieux mettre les ceintures de sécurité pour pas se faire arrêter stupidement.
If I were on the motorbike, maybe I am already stopped by the police.
Si nous avions été en moto, Blacktown aurait certainement déjà été arrêté par la police. Blacktown vient d'appeler une des personnes de l'équipe qui vient de lui dire qu'il y a un checkpoint sur la route qu'il comptait emprunter. Donc nous sommes en train de faire demi-tour.
Sometimes we, you know, understand because we are living here
illegally. On vit illégalement, on conduit sans permis de conduire, mais nous n'avons pas d'autre option. Et pour l'instant, la route est libre.
Yeah, the road is free.
Mình là Hoàng Nhất.
Mình là Bà Chi.
TVB luôn nghe tại sự mà chủ đề vậy. Kể như vậy, thì cái này sự kiện liệu cho bà biết không?
Nous voici revenus au bureau de Inside News. De quoi parlez-vous dans votre magazine?
Any issue that related to IDPs?
Les IDPs, ce sont les personnes qui ont été forcées de quitter leur village d'origine, qui ont été réinstallées dans une région mais qui n'ont pas traversé les frontières internationales et qui vivent donc toujours du côté birman.
Inside News is about the IDP and for the IDP.
Et la particularité d'Inside News, c'est de s'adresser directement à ces personnes. C'est un magazine sur les IDP, pour les IDP. C'est surtout un magazine d'éducation, une éducation à la santé, pour, par exemple, mieux connaître la malaria et comment soigner les crises de malaria. C'est aussi un magazine qui explique, par exemple, comment éviter les mines et que faire en cas d'accident. De l'autre côté, il y a de nombreux dangers. Nous les appelons des dangers mortels. Il faut éviter l'armée birmane, il faut éviter les mines, il y a les maladies. Donc tout ça, ce sont les dangers que nous encourons quand nous allons en reportage de l'autre côté de la frontière. C'est dangereux, mais c'est un travail nécessaire. Il faut raconter ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Il ne faut pas laisser ces populations dans l'oubli. Il faut que tout cela soit connu par la communauté internationale. Et après, à cette communauté internationale, sachant cela, de faire pression sur le gouvernement birman, sur l'armée birmane, pour que les exactions cessent.
Je m'appelle Eken Yang. Je suis instituteur. Je suis aussi responsable de l'école où nous sommes. L'armée birmane nous a toujours harcelés. Quand j'étais enfant, 5 ou 6 ans, les soldats birmans ont attaqué notre village. Ils ont tout volé. Nous nous sommes cachés dans la forêt. Ce qu'ils ont retrouvé ont été exécutés. Tous les autres villageois ont dû fuir. Après la destruction de notre village, chacun est allé vivre où il pouvait. Avant, nous vivions de l'autre côté de la frontière, en Birmanie. Juste en face, sur le bord de la rivière Moé. L'année dernière, rester là-bas est devenu impossible en raison des combats. Il a fallu déménager notre école.
Je m'appelle François Nosten, je suis professeur de médecine tropicale à l'université d'Oxford en Angleterre. Et je suis le directeur d'une unité de recherche sur le paludisme et les maladies infectieuses, ici à Mesot, sur la frontière Thaï-Birmanie. Jusqu'en 1995, on travaillait uniquement dans les camps de réfugiés. On s'est rendu compte à partir de 1995-1996 que le paludisme affectait beaucoup plus des populations qui étaient en dehors des camps de réfugiés.
Vous, François Nosten, acteur de la recherche, c'est à ce moment-là que vous décidez de vous engager aussi dans le domaine des soins.
Les agences humanitaires, les ONG qui s'occupent de la santé des réfugiés dans les camps de réfugiés n'ont pas vraiment vu cette population de migrants arriver et il s'est créé une espèce de vide sanitaire parce que les conditions économiques, les conditions de vie de ces gens qui sont sur la frontière font qu'ils sont quand même assez vulnérables à toutes ces maladies infectieuses. Et puis, bien entendu, il y a des urgences au niveau de la prévention, puisque très peu sont vaccinés. Donc, il y a des besoins élémentaires qu'on considère comme acquis pour n'importe quelle population, n'importe où, et qui ne sont pas remplis ici.
We have three vaccination teams, and every day we go through to three.
Le centre de recherche a mis sur pied trois équipes de vaccination. Chaque jour, nous visitons des écoles qui accueillent les enfants migrants de la région. Il y a environ 70 écoles dans la province de Tak. Cela représente environ 15 000 à 18 000 élèves. L'école où nous nous trouvons a été victime de trois épidémies récemment. Les enseignants disent que les enfants vivent dans la forêt. 95% des enfants n'ont aucune trace de vaccination. Nous commençons donc de zéro avec les vaccins de base. Nous distribuons aussi des moustiquaires, surtout dans les écoles qui sont en forêt, pour réduire les risques de malaria durant la saison des pluies. Nous travaillons en collaboration avec le gouvernement thaïlandais. Les autorités soutiennent notre action. Elles souhaitent que les enfants soient vaccinés parce qu'il y a déjà eu de nombreuses épidémies.
We crossed around June 2nd in 2009.
Nous avons franchi la frontière le 2 juin 2009. C'était à la tombée du jour. Les enfants ont traversé la rivière en premier. C'était très pénible, car c'était en pleine saison des pluies. En été, il y a moins de problèmes. On peut s'abriter sous les arbres, mais durant la saison des pluies, les enfants attrapent froid et tombent malades. Nous avons 130 élèves. Avec leurs parents, notre communauté compte environ 400 personnes. Nous voulons reconstruire l'école ici en Thaïlande, mais nous avons beaucoup de difficultés.
Only yesterday, the chief leader in Thak, Prophet.
Hier, par exemple, le chef militaire de la région de Thak est venu nous dire que nous ne pouvions pas rester. Il a dit que nous devions retourner en Birmanie. Il n'y a pas de problème avec les habitants d'ici. Ils sont proches de nous. Ils comprennent notre situation. Mais c'est différent avec les soldats thaïlandais. Nous manquons de nourriture. Les enfants mangent une soupe deux fois par jour. Ils ont très faim.
Les enfants sont vraiment très hungriers. Parce que vous voyez, c'est un long gap dans le.
Ils prennent le petit déjeuner à 8 h du matin, puis ils mangent à 17 h. Les journées sont très longues.
Des
gens qui traversent la frontière racontent la même chose. En travaillant ici tous les jours, en côtoyant ces gens, je me suis habituée à entendre ces histoires. Elles font partie de nos vies. C'est normal. C'est la vie ici. Ce que je vois tous les jours, ce sont des gens qui semblent être nés pour attendre. Ils attendent la liberté, que quelqu'un leur vienne en aide. Ils attendent d'être soignés. Jour et nuit, ils attendent que quelque chose se passe pour que leur vie s'améliore. Ils n'ont pas d'endroit où aller, ils n'ont pas de chez eux. Ils sont un jour ici, un autre ailleurs. Ils se déplacent tout le temps. Ils sont toujours à fuir la police. Le niveau de stress quotidien est très élevé parce qu'il y a tant de problèmes qui peuvent leur tomber dessus chaque jour. Leur vie est imprévisible. Demain n'existe pas pour eux.
Il y a plusieurs centaines de milliers de travailleurs migrants qui vont et viennent sur cette partie de la frontière parce que c'est l'endroit où les opportunités de travail sont les meilleures. Les maladies infectieuses se fichent pas mal des frontières. Et donc c'est un gros problème, par exemple, pour la propagation de la résistance, que ce soit la résistance du paludisme aux médicaments, que ce soit la résistance des bactéries de la tuberculose au traitement antituberculeux, etc. etc. Mais alors, est-ce qu'on peut enrayer cette progression et empêcher qu'elle gagne le reste de la Birmanie et donc le Bangladesh, l'Inde et le reste du monde, ce qui serait un désastre? Les financeurs institutionnels commencent à réaliser que les besoins de santé ne sont pas que dans les camps de réfugiés. Peut-être que cette prise de conscience va générer un mouvement aussi de la part des acteurs de santé, c'est-à-dire des ONG, pour faire en sorte que les gens qui se déplacent d'un pays à l'autre, quelquefois de manière quotidienne, aient accès à un système de soins adapté à leurs besoins. Si on ne sort pas d'une vision simpliste qui consiste à dire d'un côté il y a la Birmanie avec ses problèmes et ses maladies et de l'autre côté il y a la Thaïlande avec son développement et sa population, on ne peut pas s'attaquer à ces problèmes. Il faut prendre en compte la réalité du terrain sans aller monter des murs là où il n'y en a pas.
Je suis arrivée à Mesot en 2002 à cause de la situation économique de ma famille qui était très mauvaise en Birmanie. J'ai décidé de venir ici pour pouvoir envoyer ma fille Darli à l'école. Au début, j'ai été hébergée par une amie pendant 2 mois avant de trouver un travail. C'est cette amie qui m'a trouvé un emploi dans une usine de confection. À l'époque, on était payé 50 bahts par jour, environ 1 euro. Dans cette usine, il y avait 500 personnes qui travaillaient de 8h à midi, de 13h à 17h et de 18h à minuit. Parfois, il fallait faire des heures supplémentaires et toute la nuit on travaillait. L'usine nous donnait des repas 2 fois par jour. C'était 10 bahts par repas. Ce n'était pas bon, mais nous ne pouvions pas faire autrement. Le patron, lui, nous payait quand il le voulait.
Dans cette usine, est-ce qu'il y avait que des femmes qui travaillaient et est-ce qu'elles venaient toutes de Birmanie?
Les patrons possédaient 2 usines. Il n'y avait que des femmes qui travaillaient et toutes ces femmes venaient de Birmanie. Ce propriétaire était un Chinois.
Je m'appelle Annette Herbelin. J'ai eu l'opportunité d'être volontaire comme enseignante de français à l'école de MEPA, située près de Mesot, qui s'appelle BHSOH, Boarding High School for Orphans and Helpless Youth.
Pour décrire la précarité de ces enfants, est-ce qu'il y a un parcours qui pourrait être raconté, qui vous a plus impressionné que les autres?
Je ne sais pas si on peut raconter une histoire, parce qu'elles sont tout aussi poignantes. Il y a une gamine qu'on avait tout de suite remarquée, qui est Darli. La mère de Darli travaille et vit dans une usine textile. On a rencontré la mère de Darli, mais le coup d'œil qu'on a eu dans l'usine nous a vraiment frappé. C'était des centaines de machines, très serrées, qui étaient vraiment les unes sur les autres, avec des tas de vêtements au pied de chaque machine. De quoi vous démolir le moral rien qu'à regarder le boulot qu'il y avait à faire au pied de la machine. Donc la mère de Darli a voulu qu'on monte dans l'espace où elle vit, qui est lié à l'usine. Et là, vraiment, en entrant, on a eu un choc. Un choc énorme, parce que c'était une centaine de femmes qui vivaient là. Et quand on rentrait dans cet espace, on ne voyait que des empilements de cartons avec des fils tendus de part et d'autre. Les cartons avaient une double utilité. Ils servaient de cloison et d'autre part, ils servaient d'armoire. Et l'espace entre les cartons, c'était une natte par terre qui servait pour 2 femmes. Donc on était au niveau d'un étage. Une 20aine de femmes étaient en train de faire leur toilette, un grand bac en béton, plein d'eau, et voilà, c'était leur espace de toilette. Les femmes se lavaient les cheveux, trouvaient le moyen de chanter, et quelques femmes dormaient, d'autres se remaquillaient. J'ai trouvé ça plutôt incroyable d'avoir ce brin de coquetterie, c'est bon signe. Donc des conditions très dures. Et les usines textiles sont bien cachées, je trouve, dans Mesot. Elles ont des très hauts murs et je n'ai jamais vu les employés sortir de là. La première année, je ne me suis même pas aperçue qu'il y avait des usines textiles.
Home to the good, how walk and how training.
when she see her daughter and everything is
normal. Darlie, tu as 16 ans, c'est toi qui me traduis ce que dit ta mère. Toi, quand tu écoutes ce que raconte ta mère, quelle est ta réaction?
Sometimes when I study and I think about my mother, and sometimes I feel
parfois quand je suis en cours, je me sens très triste quand je pense à ma mère. Moi, je fais des études dans une école. Je suis dans une situation confortable. Et pour elle, c'est très pénible. Pour moi, tout va bien et pour elle, tout est très difficile. Cela me fait de la peine, mais je ne baisse pas les bras parce que je veux devenir une femme instruite. Pour y arriver, je travaille encore plus que mes camarades parce que j'ai cette ambition.
Quels sont vos rêves pour votre fille qui a 16 ans et qui étudie?
J'espère que Darlie va devenir une femme honnête, intelligente et au service des autres. Je veux que ses connaissances servent notre pays. Toutes les travailleuses sont dans la même situation. Certaines ont plusieurs enfants à élever. Elles doivent beaucoup travailler pour faire quelques économies et pouvoir les envoyer à leur famille en Birmanie.
Annette, Darlie et sa mère ont migré en Thaïlande pour des raisons économiques. Aujourd'hui, elle regrette ce choix ou elle ne le regrette pas?
À l'heure actuelle, Darlie, c'est impossible qu'elle regrette la Birmanie par rapport aux études qu'elle peut faire grâce aux bourses qu'elle a pu obtenir là depuis 2 ans. Et puis alors, elle a des idées parfaitement claires sur la façon d'aider ensuite sa communauté à l'extérieur, tant que la Birmanie n'est pas redevenue libre, soit aider sa communauté à l'intérieur. Donc elle ne regrette pas. Quant à la mère de Darlie, elle a une vie qui est vraiment très difficile, mais la mère de Darlie est particulièrement fière de la réussite de sa fille, et par rapport à ça, je pense qu'il n'y a aucun regret chez elle.
En train de traverser des champs à vélo et je croise des collégiens qui vont dans le sens contraire au mien. Attention, un vélo qui fonce vers moi. Et bout de récréation, nous approchons. Changwan, you are busy, vous êtes occupé?
Just we have discussed about our school development on curriculum, teaching method, something like that. Just wait for the minutes.
Ok, j'attends quelques minutes. Ils m'expliquent qu'ils sont en train de discuter des projets, de nouveaux programmes et de nouvelles matières à enseigner.
Okay.
Il y a encore quelques étudiants qui sont en train de plancher sur leurs copies.
The school is about 1,200 students. Our school is start from the nursery. Nursery is not for this school. There is a little school. And when you come to our school, you will saw and on the way.
Il y a ici 1,200 étudiants. Alors Changwan explique qu'un peu plus loin, il y a une école maternelle et qu'ici, c'est surtout l'enseignement secondaire et primaire. Il y a en tout 69 enseignants et il y a aussi une équipe technique dans une trentaine de personnes. Changwan vient d'appeler un étudiant.
This student is now he is studying at grade 11.
Cet étudiant est en 11e année, il a 16 ans. Cet étudiant a déjà fait des études en Birmanie, mais il sait que l'offre éducative est meilleure de ce côté-ci de la frontière en Thaïlande et c'est pour ça qu'il a fait le choix de
franchir la frontière et de venir seul car le reste de sa famille est resté en Birmanie. Dites-moi, Changwan, tout ça, est-ce que c'est quelque chose de légal ou pas?
Non, c'est illégal.
Tout ça est illégal. Moi-même, je suis illégal, dit Changwan. Les étudiants aussi, eux, sont en situation illégale en Thaïlande, mais nous devons remercier pour cela le roi de Thaïlande. C'est grâce à lui qu'il nous permet et qu'il tolère notre présence ici.
Up to 2006, and I came here. So when I arrive here, I also teach one of the GED school.
Changwan est arrivé en 2006 en Thaïlande et depuis, il a enseigné dans différentes écoles, différentes fondations, notamment une école aidée par des Américains, puis une école fondée par des Birmans.
Now this situation is the best for my.
De toute ma vie, c'est la meilleure situation que j'ai connue. Ce sont les meilleures conditions de travail et d'enseignement que j'ai eues. Et c'est un espoir car éduquer les jeunes, c'est évidemment leur permettre de vivre dans de meilleures conditions. Et vraiment, les conditions actuelles sont de très bonnes conditions matérielles ici dans ce collège. CDC.
CDC is mean Children Development Center.
My name is Mamang Tin.
Mon nom est Mamang Tin.
I'm from Burma.
Je viens de Birmanie.
I live in Thailand.
Je vis en Thaïlande.
Illegal.
En situation illégale.
I paint.
Je peins.
I don't care if my paint is really good or not for technique.
Je me fiche pas mal que mes toiles soient bonnes ou mauvaises techniquement.
See my painting.
People Les gens voient mes tableaux, découvrent la situation
Burma,
en Birmanie.
Via my painting, just
et cela me fait plaisir.
In our own country, we scare. We run away.
Dans notre pays, nous avons peur, nous fuyons, nous ne pouvons pas dormir normalement. Nous devons vivre dans ce pays qui n'est pas le nôtre, illégalement. Nous avons toujours peur. La police peut nous arrêter à n'importe quel moment. Pour changer les choses, il faut travailler tous ensemble. Les politiciens, les gens ordinaires, les étrangers, l'aide internationale, les artistes. Il faut vraiment travailler tous ensemble.
Merci à tous ceux et à toutes celles qui, malgré leur situation, nous ont offert leur confiance. Mixage, Cédric Châtelus.
Et en queue arrière.
Attaché de production, Christine Gage et Laure-Hélène Planchet.
Attends, le portail est fermé. Hello Ankyo, how are you?
Fine.
Coordination, Alexandre Hérault.
Fine, fine.
Little Burma, le pays clandestin, un documentaire d'Alain de Valpo, réalisé par Christine Digère.
Nous sommes dimanche matin. Et Ankyo m'a invité à prendre le petit déjeuner chez lui. Il ne vit pas à l'association comme certains de ses compagnons. Il vit dans une maison qu'il partage avec sa femme, Florence, qui est française. Tous les deux ont une petite fille. Ankyo installe mademoiselle dans sa chaise à bébé. Ankyo, votre histoire, c'est un cauchemar qui devient un conte de fées.
Yes, my story is nightmare.
Oui, mon histoire est un cauchemar puisque j'ai fait 14 ans de prison, que à ma sortie de prison, j'ai alors été suivi par les services de renseignement, que là encore, j'ai risqué de me retrouver en prison. Donc c'est effectivement un cauchemar. Mais aujourd'hui, vous avez une petite fille. Est-ce que ça veut dire que vous allez oublier la prison, que vous allez oublier la politique? Oh non, je ne vais pas oublier la prison, je ne vais pas oublier mes compagnons. Je suis un témoin de ce qui se passe dans les prisons en Birmanie. Je vais continuer à lutter parce que je ne me sens pas libre. Je me sentirai libre le jour où mon pays sera libre. Et donc je vais militer pour que ce jour arrive un jour ou l'autre.
Mange. C'est pour. Mange.
Cette heure du documentaire est écoutable en ligne ou disponible en podcast sur notre site. Rendez-vous demain à 17h pour rejoindre en Équateur Quito, centre du monde, pour Clotilde de Gatine.